On commence en prenant la première question sur ma gauche.
Merci pour la parole, Chibangu, pour les scribes. Comment faire, monsieur le porte-parole, pour arrêter la folie du M23 inspirée par le Rwanda Kagame et consorts qui entendent créer une guerre tribale? Ce n'est pas les rwandophones qui sont un problème, mais c'est lui. Votre réaction. Monsieur le docteur, l'épidémie a commencé en Ouganda, si je me rappelle bien, et comment l'OMS n'avait pas pu prévenir la contagion dans des pays voisins comme les nôtres?
Merci. Concernant l'utilisation de la haine comme arme de guerre, vous vous souviendrez d'un communiqué de presse qui a été publié par la MONUSCO, mettant en garde contre l'utilisation de cette forme d'utilisation de la haine comme arme de guerre. Donc c'est quelque chose que nous ne soutenons pas. Dans tous les cas, je pense que ceux qui utiliseraient la haine tribale comme arme de guerre devront en porter la responsabilité. Docteur?
Merci. La question qui est posée est de savoir s'il y a un lien entre l'épidémie qui sévissait en Ouganda et qui est maintenant terminée et celle qui est en cours en République démocratique du Congo, et qu'est-ce que l'OMS a fait pour prévenir l'épidémie en RDC. Concernant la première partie de la question, avec les informations actuellement disponibles, il ne semble pas y avoir de lien entre les deux épidémies, et cette affirmation est basé sur les analyses de laboratoire qui montrent que l'épidémie qui est actuellement terminée en Ouganda était liée au virus Ebola de sous-type Soudan, tandis que l'épidémie qui est en cours actuellement en République démocratique du Congo, à Isiro, est due au virus Ebola sous-type Bundibugyo. Donc, la nature du virus en cause permet d'écarter un lien, en tous les cas avec les informations actuellement disponibles, un lien entre les deux épidémies. Alors, qu'est-ce qui a été fait par l'OMS? L'OMS a dès le départ, dès que l'épidémie a été déclarée en Ouganda, averti tous les États voisins qu'il y avait une épidémie en cours et qu'il fallait renforcer le niveau d'alerte. Ce qui a été fait en République démocratique du Congo également, où le niveau d'alerte a été élevé dans les territoires avoisinant la frontière avec l'Ouganda. C'est ce qui a permis d'ailleurs de détecter assez rapidement les premiers cas de Ebola et de prendre les mesures pour essayer de circonscrire cette épidémie.
Merci. Deuxième question, Marley.
Roger Marley, Lukunga, CMCTV. J'aimerais savoir, docteur Léo Degal, en quoi ce virus du type Bundibugyo se distingue-t-il des autres virus connus, par exemple ceux de type Soudan, pour qu'il soit l'objet d'un nom propre à lui, sans vraiment faire un cours d'épidémiologie? Pourriez-vous donc nous faire la distinction? En quoi cela se distingue-t-il?
Oui, la maladie de Ebola, d'abord peut-être à titre historique, Ebola est une rivière de la République démocratique du Congo qui est proche du village où la première épidémie de Ebola a été détectée. Depuis lors, d'autres épidémies se sont déclarées dans le monde et plusieurs sous-types du même virus Ebola ont été mis en évidence. Le plus connu, celui qui prévaut, qui cause la plupart des épidémies en République démocratique du Congo, qui est le virus Ebola Zaïre. Et vous avez également le type Ebola Soudan, qui est responsable de l'épidémie en cours en Ouganda. Et vous avez le virus Ebola Bundibugyo, qui, lui, a été découvert dans un village, était la cause d'une épidémie dans un village en Ouganda. il y a quelques années. Donc ce sont deux virus qui sont différents de par les signes qu'ils causent, de l'importance des signes de maladie qu'ils causent, mais surtout en termes de mortalité. On sait aujourd'hui que le virus Ebola Zaïre est certainement celui qui cause le plus de décès parmi les personnes atteintes. Le virus Ebola Bundibugyo se situe dans la catégorie intermédiaire.
Merci. Madame
Agnès Safibati, RTNC. Je voulais poser ma question au médecin pour en savoir plus à ce qui concerne
Allez-y.
Ebola. Quelles sont les pistes de solutions pour mettre fin à cette épidémie?
Docteur?
Merci. Pour mettre en place les pistes de solutions à cette épidémie, je crois qu'il faut rappeler comment l'épidémie se transmet. On pense avec les études actuelles, les connaissances actuelles, que cette épidémie, cette maladie se transmet d'abord à l'animal. Et généralement, l'histoire qu'on retrouve lorsqu'on cherche en amont le départ de l'épidémie, il s'agit souvent d'un chasseur qui trouve une bête morte dans la forêt. Généralement, cette bête, c'est une antilope ou un singe. Qu'il la dépèce seul ou avec sa famille et puis qui développe la maladie et meurt généralement quelques temps après. Et souvent les personnes qui l'ont soigné sont également contaminées et c'est ainsi que la maladie se transmet à ce moment-là de personne à personne. Et comment elle se transmet? Donc nous avons vu que la transmission de l'animal à l'homme se fait par la manipulation d'une carcasse d'une bête morte et c'est le contact avec le sang qui est souvent le mécanisme de transmission. Lorsqu'une personne est atteinte, comment elle transmet la maladie à une autre personne? Souvent c'est le contact avec les différentes sécrétions qui viennent de l'organisme que cette maladie se transmet d'une personne à une autre. Donc ceci pour nous permettre de comprendre comment on peut la prévenir. Donc la première prévention s'adresse bien entendu à tous les professionnels de la chasse ou même aux amateurs. Lorsque vous trouvez une bête morte en forêt, il vaut mieux s'abstenir de la manipuler et de la consommer. Maintenant, pour limiter la transmission entre les hommes, lorsqu'une personne est atteinte, elle doit immédiatement être adressée par sa famille au personnel compétent, d'abord pour faire le diagnostic, mais également pour mettre en place immédiatement les mesures d'isolement et de protection pour éviter que cette personne transmette la maladie à sa famille, aux membres de sa famille et également au personnel médical. Il y a également un moment qui permet cette transmission, c'est lorsque une personne est décédée. Vous connaissez tous les rites funéraires qui sont très très importants dans nos sociétés et où très souvent on manipule, on touche de très près la dépouille mortelle et là aussi c'est une occasion de transmission de la maladie. Donc la prévention du contact, de la transmission entre les hommes se situe à limiter les contacts non protégés avec une personne qui est atteinte par cette maladie et de limiter les cérémonies, les contacts avec la dépouille d'une personne qui est morte de Ebola. Voilà en quelques mots les moyens qui permettent. Alors, dans les pistes de solutions, il y a également la recherche qui est en cours pour essayer de mettre au point un vaccin et des médicaments éventuellement efficaces contre le virus de Ebola.
Merci. De votre. Juste. Oui.
Merci. Christian Bella de la télévision Sangomalamu. Ma question s'adresse au porte-parole. Monsieur Mounoubaï, le porte-parole du gouvernement Lambert Mende Omalanga a déclaré lors de son dernier point de presse que le gouvernement congolais continue de demander l'élargissement du mandat de la MONUSCO afin de neutraliser les deux principales forces négatives. L'allusion est faite au M23 et au FDLR. Comment la MONUSCO réagit ou compte réagir face à cette demande du gouvernement congolais?
J'espère que vous avez aussi compris que cette demande s'adresse au Conseil de sécurité. Ce n'est pas à nous. C'est le Conseil de sécurité qui peut changer notre mandat. Nous ne changeons pas notre mandat de nous-mêmes. Donc s'il doit y avoir contact, ce serait entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le Conseil de sécurité. Derrière.
Et je m'adresse au docteur. À suivre votre exposé, nous avons vraiment peur parce que avec Ebola, comme le vaccin n'est pas encore disponible, nous pensons que ça sera catastrophique parce que jusque là, je ne sais pas si vous avez constaté que les centres de santé ne sont pas proches de certaines populations. Donc la prise en charge continuera à poser problème. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est catastrophique? Est-ce que l'OMS a pensé à trouver des solutions dans ce sens-là?
Oui, effectivement, je ne qualifierais pas personnellement la situation de catastrophique, mais je la qualifierais d'une situation sérieuse, une situation qui peut dégénérer si elle n'est pas rapidement prise en charge convenablement. Et c'est pour cela que j'en profite pour rappeler l'appel qui a été lancé par l'Organisation mondiale de la santé et l'UNICEF pour un appel de fonds pour essayer d'appuyer le gouvernement à organiser cette lutte, à apporter les moyens de la lutte. C'est une lutte effectivement la plupart des pays, ce n'est pas seulement la RDC, ne peuvent pas envisager mener seuls. Et donc très, très rapidement, la solidarité internationale doit se manifester pour permettre au gouvernement concerné de pouvoir mener cette lutte. Et ici, je crois que c'est l'occasion de remercier tous ceux qui sont déjà intervenus, MSF, le CDC d'Atlanta, l'UNICEF et l'Organisation mondiale de la santé, qui sont venus en appui au gouvernement justement pour l'aider dans cette lutte que très peu de gouvernements peuvent mener seuls.
Africa TV.
Laurette Mandala, Africa Télévision, toujours au point de presse du porte-parole du gouvernement. Il a parlé des 300 éléments rwandais qui ont quitté les territoires congolais pour le Rwanda. Et j'aimerais savoir si la MONUSCO était au courant de l'existence de ces éléments rwandais sur le territoire congolais. Et ma deuxième question est de savoir, avez-vous assisté comme témoin international au départ de ces éléments?
En ce qui concerne la sortie de ces éléments rwandais, nous n'étions pas témoins. Quant à ce qui concerne votre question, je pense que la bouche la plus autorisée pour parler de cette question, c'est le porte-parole du gouvernement et il s'est exprimé en long et en large sur cette question. Il ne revient pas à la MONUSCO de la commenter. Oui.
Patrick Mbanga pour l'expression. Je pose la question au commandant. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la situation sécuritaire au jour d'aujourd'hui à Aru, Mahagi, Djougou et dans le lac Albert?
Concernant la situation dans les zones que vous avez citées, j'en ai parlé dans le résumé qui a été distribué. Elle est exactement ça, elle n'a pas évolué. La force de la MONUSCO à travers ses postes opérationnels suit de très près cette situation parce que comme vous le savez, il y a des dynamiques locales de quête de ressources et autres problèmes ethniques qui font que la situation peut s'aggraver. Nous suivons avec attention à travers nos postes opérationnels les patrouilles que nous faisons l'évolution de cette situation pour qu'elle reste sous contrôle.
Merci. Oui. Devant, allez-y.
Voilà, je suis Anthony Chamba, d'Iraga Télévision. Monsieur le porte-parole, ma question, je l'adresse à vous personnellement. Je reviens à la conclusion de la récente rencontre du comité des sanctions des Nations Unies entre la RDC et le Rwanda. Monsieur le porte-parole, nous n'avons pas compris comment est-ce que le Conseil de sécurité n'a pas formellement condamné le Rwanda alors que des enquêteurs des Nations Unies avaient produit des documents qui indexaient que le Rwanda était en train de soutenir les M23. Et arrivé devant le comité de sanctions, le comité de sanctions n'a pas pu formellement condamner le Rwanda. Comment est-ce que le Conseil de sécurité n'a pas pu soutenir les conclusions de ces enquêteurs qui condamnaient, qui indexaient le Rwanda? Ça, on n'a pas compris.
Mais je pense que c'est là que je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites que le Conseil de sécurité n'a pas soutenu les conclusions du groupe des experts. Le Conseil de sécurité a soutenu les conclusions du groupe des experts. Et si vous êtes familier avec les méandres ou les langages diplomatiques, vous devrez savoir que le fait qu'un pays, une personne, soit nommément cité dans un document, c'est déjà très sérieux. Parce qu'il y a des formes que l'on utilise. Le Rwanda était nommément cité et on a demandé que le Rwanda cesse son appui au groupe de M23. Par conséquent, relisez ce document et vous comprendrez. Nous allons... Personne en face. Nous prenons la première personne ici à ma droite. Prenez le micro.
C'est Serge Mukendi pour le compte de Baraka Télévision. Ma première préoccupation consiste à savoir quelle est la situation actuelle de la ville de Goma, parce que les échos qui nous parviennent de là font état d'une insécurité grandissante et que la population se couche très tôt. Alors nous voudrions savoir quelle est la situation actuelle de Goma. La deuxième préoccupation consiste à savoir les raisons de la prochaine visite du secrétaire général adjoint au maintien de la paix. Voilà.
Merci. Première question, mon commandant.
La situation à Goma, elle n'a pas changé la semaine écoulée. Elle est restée la même, avec la sécurité assurée par les FRDC, les forces de sécurité congolaises, et aussi avec l'appui des forces de la MONUSCO. Elle n'a pas évolué.
En ce qui concerne la visite de M. Latsous, comme je vous l'ai dit, c'est le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix. Par conséquent, il se doit d'être à l'écoute de tout ce qui peut entraver ou mettre à mal la sécurité dans le monde. Il fait une tournée annuelle dans le monde entier pour visiter les missions de paix qui existent et pour aussi visiter les régions qui sont menacées d'insécurité. Donc sa visite ici entre dans le cadre de sa mission normale qu'il effectue chaque année. Quand il a pris fonction, il avait déjà fait une visite, je dirais, de courtoisie en République démocratique du Congo. Cette fois, c'est une visite de travail. Il est tout à fait normal qu'il visite cette région où la paix semble menacée.
Oui,
sur Goma.
D'une semaine à Goma, et je peux vous assurer que la rentrée scolaire s'est passée lundi, normalement, et que dimanche, avec certains confrères, on a eu l'occasion de faire une patrouille motorisée avec les forces de la MONUSCO dans Goma, et que la situation était très calme, et au contraire, on a pu noter, enfin, on était tous étonnés que de voir pour un dimanche, il y avait beaucoup de personnes dans les rues, beaucoup d'activités commerciales. Donc, à ce jour, la situation reste préoccupante, mais les dispositifs à la fois des FRDC et de la MONUSCO font en sorte que la ville est sécurité et l'activité, une fois encore, commerciale, économique et scolaire, universitaire dans la ville de Goma, pour l'instant, suit son cours.
Merci. Juste à côté.
Carlos Mupili, de la CSRP. Porte-parole militaire, la radio Kapi parle de deux femmes portées disparues à Chabunda, dans le groupement de Mugoba Sid, et d'autres sources de la place. On nous parle toujours dans le secteur de Wakabango, toujours à Chabunda, précisément dans la localité de Kikamba, Kianama, Penekusu, Kitindi. L'insécurité règne en maître et le village, surtout les jeunes, ils sont traqués pour être, parce qu'ils sont impliqués des Raia Mutomboki. Et quand le villageois fuit dans la forêt, il rencontre encore des menaces de FDLR. Ma préoccupation, je me demande pourquoi le choix de traquer le patriote qui a accompli l'article 63 qui les pousse à se défendre de la Constitution, et pourquoi ne pas les encadrer comme c'était à l'époque de Mosée pour qu'ils ne puissent pas aller au dérapage, donc encadrer les forces d'autodéfense populaire. Porte-parole, de 6 millions nous allons vers 9 millions de morts. Le bilan est très lourd. Et tout ça, quand on met ça en chef du régime de Kagame, on se demande, vous êtes doué pour ne pas... Vous êtes doué parce que l'arithmétique, c'est facile. Quand on fait la somme de crimes causés par le président Kadhafi, les crimes de Char Taylor à Sierra Leone, les crimes des terroristes et Al-Qaïda, le crime du génocide du Rwanda, cela n'atteint même pas la moitié de ces chiffres ici, de vers 9 millions de morts. Maintenant, jusque-là, le monde et le défenseur des droits de l'homme s'étonnent pourquoi la personne ou Kagame et son régime et tout le reste restaient impunis. Et qui est son parrain à la haute sphère, au niveau de là où se prennent des décisions? Merci.
Je commence par la deuxième question. Je pense que vous posez une question qui dépasse largement la MONUSCO. Nous n'avons ni un mandat exécutif, ni un mandat judiciaire. Nous n'arrêtons pas les gens, nous ne jugeons pas les gens, nous n'avons pas un tribunal. Par conséquent, vous posez une question à laquelle je ne peux pas répondre. Mon commandant.
Concernant le Chabunda, comme vous l'avez dit, nous n'avons pas encore les derniers rapports dont vous parlez concernant la disparition des femmes, mais c'est sûr qu'on a une équipe avec les MILOPS qui sont là-bas et on a aussi un COB. Ces informations nous seront remontées certainement. Les patrouilles, parce qu'en particulier Meshabunda, on connaît la sensibilité, le COB patrouille quotidiennement pour assurer la protection des populations qui est notre mandat. Maintenant, quant à l'encadrement des forces locales d'autodéfense, vous comprendrez que ce n'est pas le rôle de la MONUSCO. On est dans un pays souverain, avec un gouvernement, avec des forces de défense, qui, si elles le jugent, si le gouvernement le juge nécessaire, ou les forces armées congolaises, comment ils assurent leur défense, n'est pas du ressort de la MONUSCO. Donc, je ne vois pas comment la force de la MONUSCO pourrait se mêler d'encadrer des forces d'autodéfense. Mais effectivement, dans le cadre de la protection des civils, les COB et nos team sites patrouillent régulièrement, et je vous ai donné le nombre de patrouilles qui se fait quotidiennement au total, parce qu'il n'y a pas que Chabunda, il y a bien d'autres secteurs.
Nous prenons une dernière question, juste derrière.
Merci. Christophe Msungu, Biwan Radio Télévision. Juste une question, monsieur le porte-parole. En tout cas, l'opinion nous dérange. Nous aimerions savoir si c'est vrai que la MONUSCO, étant que mission observatrice en RDC, a vu le Rwanda se retirer. Et puis, comment elle peut s'expliquer si effectivement elle a observé aussi les affrontements entre le M23 et les FDLR, juste quelques heures après les départs de forces rwandaises du sol congolais.
Mon commandant.
En fait... Je pense que les deux gouvernements s'accordent sur l'extraction. Maintenant, les modalités, comment, quand, pourquoi, ce n'est pas à la MONUSCO de se mêler de ce débat entre deux gouvernements souverains. Effectivement, il y a eu des combats autour de ces camps entre le M23 et le FDLR, mais ça n'a pas duré longtemps. Actuellement, parce que nous avons des positions à Kiwanja, à Nyamelima et à Ishasha. Actuellement, la situation est calme. Il n'y a pas de problème particulier. Il y a des activités de domination de la zone que tente de mener le M23, mais pour l'instant, il n'y a pas de problème particulier dans cette zone.
Merci beaucoup. Nous rendons l'antenne à nos auditeurs de Radio Okapi qui nous suivent en direct. Cependant, si vous avez des questions, je suis disposé à vous répondre, à moins que vous voulez seulement être écouté par les auditeurs.